Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Il est 20h pile, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Tech & Co en ce mardi soir, très heureux de vous retrouver. Vous le savez, Tech & Co c'est chaque soir 90 minutes de tech à la radio, à la télé, en direct et après les replays, les podcasts qui vous attendent. Évidemment, je suis ravi de vous retrouver avec au sommaire de ce Tech & Co en ce mardi soir. Eh bien, on va revenir sur encore une prouesse technologique que l'on doit à l'intelligence artificielle générative. Si vous êtes avec nous à la télé, vous voyez ce cochon qui vole. Évidemment, tout ça n'est pas vrai, mais c'est OpenAI qui a réussi à faire ça avec une nouvelle version de Sora. On en parle dans quelques instants. Autre anniversaire 100% français, celui-ci. C'est la carte à puce qui a 50 ans. On reviendra sur cette belle réussite industrielle. Et puis, je recevrai le porte-parole Europe de Nvidia tout à l'heure dans Tech & Co, qui reviendra sur toutes les annonces qui ont été faites par Nvidia lors de ce Woodstock de l'IA qui a été organisé il y a quelques jours avec entre autres une nouvelle architecture de puce encore plus puissante que la précédente, entre autres nouveautés. Merci d'être là, bienvenue, c'est parti pour Tech & Co.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et un bon Tech & Co, c'est forcément un bon débrief de l'actu tech pour débuter et pendant une heure en plus. C'est quand même la classe. Cédric Ingrand est avec nous. Salut Cédric.
Salut François.
Ravi de te retrouver, ancien journaliste bien sûr, directeur général de Heavyweight Studio dorénavant. À tes côtés c'est Hugo Weber. Salut Hugo.
Salut François.
Ravi de te retrouver aussi Hugo, directeur des affaires publiques chez notre pépite française Miracle. Tout va bien chez Miracle?
Parfaitement.
Les indicateurs sont au vert?
Toujours au vert.
On voit qu'ils ont de l'argent chez Miracle. Et... casquette Miracle, parapluie Miracle. Hugo est venu avec quoi d'autre Miracle?
Un carnet, c'est tout.
Et peut-être même des trucs cachés, on n'ira pas plus loin. Christophe Honnête, salut Christophe.
Bonsoir François.
Senior Advisor chez Seven2 et ancien président de Microsoft Asie du Sud et France. Voilà, Christophe Honnête que vous connaissez bien, qui vient régulièrement dans Tech & Co pour débriefer l'actu. Plein de sujets passionnants. On va revenir sur ce patient Neuralink qui, il y a encore une semaine, arrivait à jouer aux échecs simplement par la pensée. Maintenant, il joue à Mario Kart, le gars. Quand même, c'est impressionnant. Hein. On a une petite vidéo à vous montrer et puis on débattra là aussi sur les progrès en fait de cette technologie. On évoquera un petit peu aussi le DMA et les GAFAM, vous le savez, avec cette enquête menée par la Commission européenne, notamment du côté d'Apple. Tiens, Apple qui a annoncé aussi sa WWDC. Ce sera le 10 juin prochain. On commentera aussi tout ça tout à l'heure. Et on reviendra, je le disais, aussi sur les 50 ans de la carte à puce. Cette carte à puce que l'on doit à un certain Roland Moreno, qui nous a quittés il y a une douzaine d'années et qui est un génie finalement parce que ben, voilà, il y a 50 ans il a inventé cette petite puce qui était intégrée dans Descartes et qui aujourd'hui est partout dans le monde. Il y en a des milliards et des milliards. C'est incroyable, c'est un succès phénoménal. 50 ans cette année. Mais pour débuter, donc OpenAI qui a présenté une nouvelle vidéo avec de nouveaux effets d'intelligence artificielle générative en termes de vidéo. Parce que c'est vraiment, là, le nouveau dada d'OpenAI, c'est Sora, ça s'appelle comme ça. Imaginez, aujourd'hui, vous tapez, je sais pas quoi, ce que vous voulez, sur l'interface de...
François Sorel court sur une plage.
Oui, voilà, ça, François Sorel court sur une plage avec un casque de moto, par exemple, pourquoi pas. Et là, d'un coup, paf, vous avez François Sorel qui court sur la plage avec un casque de moto. Si on peut lui enlever quelques kilos aussi à François Sorel, ça serait pas mal. Merci beaucoup, l'IA. Non, je plaisante. Ce qui veut dire par là que OpenAI avance très très vite sur ce sujet de l'intelligence artificielle générative avec une qualité, c'est ça qui est complètement bluffant, la qualité des images qu'on arrive à avoir. On se casse le nez, Cédric.
C'est bluffant. C'est monstrueux.
Deuxième salle de vidéo.
Ouais. Mais il faut imaginer, il faut se souvenir de ce qu'on a. Il y a un an, on produisait des photos de gens avec 7 doigts, voilà. Oui. Et aujourd'hui, on fait
ça. Et des longs doigts en plus.
Oui, enfin, c'était souvent voilà.
C'était pas terrible.
Et aujourd'hui, on fait ça. On fait des choses qui sont de la cinématographie, enfin, qui peuvent servir à plein de gens. Alors, c'est pas pour autant encore des choses vraiment faciles à utiliser. D'ailleurs, de toute façon, c'est pas accessible ni à vous ni à moi.
Non.
Et alors, justement, ils ont mis Sora dans les mains d'une demi-douzaine d'artistes, vidéastes, etc. Justement pour produire ces nouvelle vidéo. Et alors c'est intéressant parce que ça arrive au moment où d'autres disent attendez, mais vous êtes en train de faire, enfin vous êtes en train de piller en gros toutes les vidéos qui sont sur Internet pour instruire votre modèle
génératif. Pour nourrir ce modèle.
Oui, parce qu'évidemment, mais c'est incroyable de voir la précision de ce que ça arrive à sortir, parce que entre une image et de la vidéo, il y a une grosse différence. C'est pas juste 25 images par seconde, c'est aussi la gestion du mouvement, c'est comprendre le volume des choses. Enfin, on est face à une espèce de vraie course aux armements totale, et pour l'instant, clairement, ils tiennent tête.
Avec le photoréalisme, hein. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans des jeux vidéo ou en fait des démos vidéo de PlayStation 5. Là, on a l'impression parfois, et franchement, si vous êtes avec nous en audio, bien sûr, on pourrait vous les décrire pendant des heures, mais l'idée, c'est vraiment aller sur le compte Twitter d'OpenAI et aller voir ces vidéos. Alors, regardez le replay de cette émission, on vous en montre quelques-unes, c'est impressionnant. Là, vous voyez, vous avez un mix entre, je sais pas moi, un oiseau,
une autruche et une girafe.
Une autruche et une girafe, c'est impressionnant. Le petit cochon qui vole, c'est quand même incroyable. Est-ce que ça serait pas finalement, Christophe, l'une des innovations les plus bluffantes d'OpenAI, encore plus forte que ChatGPT?
Ça peut se débattre, mais en tout cas, c'est sûr que c'est très, très, très impressionnant. Et ce qui est intéressant, c'est que ça crée aussi un certain nombre de questions. La question de propriété intellectuelle à laquelle Cédric faisait référence.
On va y revenir dans un instant. On a un petit son à vous diffuser là-dessus.
Voilà. Et aussi d'autres questions par rapport à Hollywood. Mais peut-être tu voulais passer cette vidéo maintenant ou
C'est comme vous voulez. Est-ce que vous connaissez Mira Murati? C'est la CTO d'OpenAI, n'importe qui, hein, la CTO d'OpenAI. Elle répondait aux questions d'une journaliste du Wall Street Journal il y a quelques jours de ça, je crois que c'était la semaine dernière. Et la journaliste lui demande d'où viennent en fait les droits de toutes ces images. Où va se nourrir en fait OpenAI pour créer Sora? Écoutez sa réponse.
Quelle data vous utilisez pour entraîner Sora?
Nous utilisons des données accessibles au public et des données sous licence.
Comme des vidéos sur YouTube?
Je ne suis pas sûre.
Vidéos from Facebook, Instagram?
Vous savez, si elles sont accessibles au public, cela peut devenir des data, mais je ne suis vraiment pas sûre.
Et par rapport à Shutterstock, je crois savoir que vous avez un deal avec eux.
Je ne vais pas rentrer dans les détails des data que nous utilisons, mais ce sont des données accessibles au public et sous licence.
Non, elle ne va pas rentrer dans des détails parce qu'elle ne sait pas. Donc quand on ne sait pas, on ne rentre pas dans les détails.
Clairement, ce n'est pas son sujet préféré.
Ouais, moment gênant hein, quand même, hein, parce que c'est la CTO d'OpenAI. C'est pas, enfin, tu vois, c'est pas. Enfin, c'est quand même la CTO.
Ouais,
et la fille, elle ne sait pas d'où viennent les images qui ont fabriqué toutes ces vidéos, quoi.
Les images qui ont inspiré.
En tout cas, d'où elles sont nourries.
On parle de copyright, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, le copyright. Moi, je peux aller regarder toutes les œuvres de Picasso et essayer de m'en inspirer pour faire de la peinture. Ça donnera un résultat que t'as pas envie de voir.
J'aurais hâte de voir ça, hein, sincèrement.
Oui, évidemment. Et pourtant, les descendants de Picasso pourront pas m'accuser pour m'être inspiré de l'œuvre. Picasso lui-même s'inspirait des grands maîtres. L'inspiration est pas quelque chose qui est couvert par le copyright. C'est la copie qui est couverte par le copyright. On le voit dans tout ce qui tient justement déjà aux images et puis à l'inspiration tirée des textes sur le web, etc. etc. Donc c'est dur de le traiter par l'angle du copyright, mais c'est vrai que bon, je pense qu'elle aurait dû être mieux entraînée à répondre à cette question.
Mais je suis d'accord, mais elle pourrait savoir au moins si c'est YouTube qui leur sert de pompe à inspiration en quelque sorte. Hein. Là, elle ne le sait même pas. Après, tu as raison sur le copyright. Hein. Il y a peut-être un pixel d'une vidéo dans.
C'est pas un pixel, c'est la capacité du logiciel à comprendre ce que c'est, à comprendre comment marche un chat. C'est aussi ça qui est confondant. C'est-à-dire que, comme toi, moi j'ai fait 30 ans de journalisme.
On va commencer à donner des royalties à tous les chats.
30 ans de journalisme technologique à essayer d'expliquer des choses compliquées aux gens. Et là, j'arrive face à une chose que je n'arrive pas à expliquer. Je peux expliquer ChatGPT. Sora, Midjourney, la génération d'images, c'est quand même très très fort en termes de technique. Là, l'explication derrière, elle est vraiment compliquée.
Hugo ?
Moi, quand je regarde ce qui s'est passé sur ChatGPT, sur les questions de copyright, j'ai aussi beaucoup vu une course aux éditeurs de presse à aller faire des deals avec OpenAI. On l'a vu avec Axel Springer, qui était le premier Allemand à aller faire ce deal-là. On l'a vu avec Le Monde, qui l'a également fait très récemment. Et en fait, la question que ça va poser pour Sora, c'est de savoir quels vont être finalement les éditeurs de films qui vont être les premiers à aller faire des deals. Et je pense que ça va être un peu la suite logique de ce qui va se passer. Parce qu'au final, ce que nous montre Sora dans les petites vidéos qu'on a vues à l'instant, c'est un phénomène qui va être extrêmement compliqué à gérer pour énormément de cols blancs. T'as mis, comme moi, un bleu de travail aujourd'hui. moi, j'ai vraiment peur d'une chose, c'est la vulnérabilité des cols blancs par rapport à cette nouvelle technologie. Et en fait, on se rend compte que sur toutes les professions intellectuelles, des juristes, en passant par les créatifs en agence de publicité, jusqu'aux gens qui font des médias ou de la télé ou des films, il y a une vraie vulnérabilité par rapport à ce sujet-là. Et finalement, est-ce que c'est pas un moyen... en tout cas, ces deals qui pourraient être passés entre des éditeurs de films ou des maisons d'édition avec des modèles, des foundational models, de trouver des nouvelles moyens de monétiser finalement leur capital qui existait déjà.
C'est compliqué parce que le moteur peut s'inspirer de plein de choses sur la cinématographie, sur comment on cadre, à quoi ça ressemble, c'est quoi un mouvement de caméra, etc. Ils peuvent aussi prendre des précautions pour que, par exemple, on puisse pas refaire un film avec Marilyn, enfin, ou avec une actrice vivante surtout, ce qui serait encore plus problématique. S'ils le font, ils n'auront pas de problème de copyright. Personne va dire tout ça semble inspiré du travail de tel chef opérateur ou de tel metteur en scène. Ça, c'est pas la question.
On l'a déjà vu avec Edith Piaf, on en avait parlé ici, le fait de recréer la voix d'Edith Piaf, de la faire reparler sur des choses qu'elle n'a pas dites. Enfin, ça pose des vraies questions philosophiques sur faire reparler des morts. Enfin, moi, c'est un truc qui profondément m'effraie totalement.
Oui, oui. Sauf si on a l'autorisation, par exemple, de la descendance d'Edith Piaf, par exemple. Ça, c'est... Et là, même si on n'est pas d'accord intellectuellement avec tout ça, ils sont dans les clous finalement au niveau de la loi. C'est ça qui est intéressant. Mais ce qu'il y a de fou, c'est que donc évidemment ces vidéos sont impressionnantes. On se dit que évidemment Hollywood va s'emparer de tout ça quand ça sera disponible. Parce que imaginez des effets spéciaux. Parce que là, ce qu'on voit, c'est des effets spéciaux. Hein. On se dit que voilà, le prochain Harry Potter avec des monstres. Il pourrait être fait, au lieu de passer des centaines d'heures dans des chez Industrial Light and Magic, les studios de George Lucas ou je sais pas où, James Cameron, il appuie sur deux boutons, il arrive à voir ça. Sauf que c'est plus compliqué que ça, parce que derrière tout ça, il y a le prompt. Et le prompt, pour avoir un cochon qui vole avec une super lumière qui va être une lumière de matin, avec une ombre qui va être un petit peu dessinée, mais pas trop, avec un aspect, on va dire, enfin voilà, il y a plein de choses. Tout ça, ça se prompte. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était des spécialistes d'effets spéciaux qui allaient devoir prompter tout ça pour avoir un résultat qui soit au top, en fait. Et encore une fois, la clé, c'est le prompt. Christophe.
Peut-être, en tout cas, le prompt est très important. Il peut être décisif dans la capacité à faire quelque chose de remarquable. Mais moi, je crois que ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de voir quelle va être la réaction d'Hollywood, un peu comme avec les éditeurs de presse. La question, c'est un peu le dilemme du prisonnier, c'est-à-dire que face à cette technologie qui peut embarquer et finalement complètement disrupter l'industrie et questionner la pertinence d'un certain nombre de studios, il y a la tentation de dire je vais être le premier à le faire parce que je vais avoir des économies monstrueuses. Alors les économies, par exemple, sur la réalisation d'effets spéciaux, mais aussi sur la réalisation d'un pilote avant de lancer un film. Le pilote, ça coûte très cher. Là, pour une fraction du coût, on va accepter qu'il y ait un pilote qui soit fait avec de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, il y a Tyler Perry, je crois qu'il s'appelle. Il s'appelle Tyler Perry, qui est un gros producteur, réalisateur, qui avait un projet de développement de studio à Atlanta, un projet de 800 millions de dollars, qui a dit « Ouh, oui, je vais mettre en suspens ».
Bon,
oui.
C'est peut-être bonjour, vous sortez façon, grand aura, les gars.
C'est peut-être une façon de se positionner différent, mais on voit bien que là, les studios vont être face à une attitude. Est-ce que je prends le truc en premier, j'en fais un avantage concurrentiel au risque finalement d'entraîner toute l'industrie, ou est-ce qu'on continue à quelque part à former un pack de résistance à ces outils-là.
D'accord. Voilà.
Ouais, et ça, c'est une vraie.
Qui t'a fini comme question. Un village gaulois quand même dans l'ensemble. Ouais. Hein, c'est un peu la question.
Après les scénaristes, après les acteurs, est-ce que ce seront les créateurs d'effets spéciaux qui pourraient faire grève?
Absolument. Imagine où on sera dans un an ou deux ans. Ouais. En fait, c'est ça le truc.
Ouais, c'est ça.
Il y a déjà des outils. J'ai vu une plateforme qui s'appelle LTX, parce que le problème de ces petits clips, c'est que tu génères ton cochon volant. Ok, super. Et pour le clip suivant, tu dis, bah maintenant, si j'étais en train d'en faire un film, par exemple, ou un spot de pub, j'aimerais bien avoir le même, dans le même décor, le même cochon volant, mais qui vole vers moi, par exemple. Mmh. Voilà. Mmh. Et ça, c'est compliqué à prompter. Et il y a une plateforme qui s'appelle LTX qui fait exactement ça. Et surtout qui te permet de revenir sur une scène et de la modifier.
Sur
et
base
de faire ton montage.
Ou... Pardon? Sur base OpenAI ou...
J'ai pas encore compris la base. C'est pas encore ouvert à tous. Mais surtout qui te permet de faire une modification en disant finalement, le cochon, il faudrait qu'il soit rouge et pas rose. Et il te le change dans tous tes plans. Enfin, non, non, c'est terrifiant. Christophe a raison sur une chose. Pour prototyper, c'est extraordinaire.
Oui, bien sûr. Oui.
Pour jeter des idées sur le papier pour des gens qui, comme moi et peut-être comme toi, n'ont aucune,
je te
aucune capacité artistique.
Ouais, ouais.
C'est quand même extraordinaire. Tout à coup, tu vas de l'idée à l'image et c'est d'une puissance absolument. Enfin, moi, c'est pas tant la sophistication de la technologie qui me troue, disons-le. C'est la vitesse, la vitesse à laquelle ça accélère.
C'est
ça,
aussi...
on a rarement vu ça.
Alors, pour peut-être clore le débat sur ce sujet avec une note un petit peu plus positive, ça va être un outil formidable de création.
Oui.
C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer auparavant, même avec les plus grands effets spéciaux. Mm-hmm. C'est ça qui est dingue. Mm-hmm. Donc vivement que ça arrive. Et on n'a pas de date, hein. Ça devrait être cette année, je pense.
Je crois qu'ils ont dit après les élections
oui.
américaines.
Alors ils attendent évidemment que l'ouragan...
La prudence.
Je pense que ça montre aussi qu'ils sont conscients des dérives que ça peut amener.
Et puis ils ont peut-être pas envie qu'on fasse l'amalgame.
Non. Après, je pense qu'ils ont besoin de booster un peu leurs relations publiques et leur compréhension des affaires publiques. Visiblement, je parle à la spécialiste ici. Parce qu'en fait, OpenAI, c'est une start-up, mais je reconnais des travers de start-up qui parfois lancent des produits qui peuvent avoir un impact économique très fort, un impact sociétal, et qui se retrouvent face à des questions absolument pas préparées, alors qu'elles étaient quand même prévisibles.
Tu te souviens au moment où Microsoft allait peut-être racheter OpenAI, et où je te disais, non, ils n'ont pas intérêt à le faire. OpenAI a intérêt, même dans le cadre d'un partenariat très lourd, de rester une société à part, parce qu'il y a des choses qu'OpenAI peut faire, mais que Microsoft ne ferait jamais. On ne prendrait jamais le risque.
On a fini là-dessus. Bon, en tous les cas, je vous invite à regarder ces vidéos entre le cochon volant et le chat serpent. C'est quand même assez impressionnant tout ça et d'un degré de réalisme qu'on n'a jamais vu. Après, les questions qu'on pourrait se poser, c'est combien de temps faut-il pour générer une vidéo comme ça? Est-ce que c'est instantané? Est-ce que ça prend...
Aujourd'hui, ce sont des vidéos de 1 à 2 minutes qui sont
générées. Oui,
c'est plutôt là-dessus. C'est une poignée de secondes. Hein,
c'est ça. Dans l'actualité aussi, Neuralink, alors on passe maintenant du côté du clan Elon Musk, avec, vous le savez, des progrès phénoménaux qui sont faits avec cet implant, hein, qui est, rappelons-le, inséré dans le cerveau. Là, on n'est pas, on va dire, sur la boîte crânienne, on est vraiment à l'intérieur. C'est une puce qui elle-même est branchée à des électrodes qui doivent être donc insérées dans le cerveau à des endroits bien précis. Tout ça, pourquoi ? Eh bien, si vous êtes avec nous à la télé pour ça, c'est-à-dire que ce patient qui est tétraplégique, qui est devenu une star en fait sur les réseaux sociaux, parce que évidemment c'est le premier, c'est le patient zéro de Neuralink. Hein, finalement, il y a une semaine, on le découvrait officiellement en train de jouer aux échecs. Et là maintenant, eh bien, il joue à Mario Kart. Et il joue à Mario Kart, évidemment, sans manette. Sans les mains, parce qu'il est paralysé, hein, il est vraiment paralysé de la tête aux pieds, et bien il arrive à jouer à Mario Kart, simplement grâce à cet implant.
Non, c'est dingue. Là aussi, si on est sur la même courbe d'accélération...
Ben on est au tout début,
c'est ça,
le patient zéro.
Presque, ouais, tout à fait. Ouais.
Un patient zéro, en tout cas, patient humain, le premier patient humain connu, on va dire. Impressionnant. Christophe.
Moi, je tempère. Je pense qu'il y a une très.
C'est vrai qu'à chaque fois, tu tempères un peu ce sujet-là.
C'est.
Tout à ton honneur.
Moi, je suis cohérent. Mais ce que je veux dire, c'est que ils sont très bons en communication. Le fait de mettre un implant qui va pouvoir, avec les ondes du cerveau, commander une puce qui va commander un exosquelette, ça a déjà été démontré.
Je veux dire, ça fait 15 ans que ça existe.
C'est pas une première mondiale, y compris d'ailleurs en France, avec un laboratoire du CEA et du LETI à Grenoble. Donc ces choses-là existent. Donc maintenant, la question, c'est en quoi on va pouvoir finalement passer à l'échelle et surtout... quelles vont être les utilisations vers lesquelles on va orienter ces outils-là. C'est vrai que ce peut être le meilleur des outils pour effectivement les sujets
Non mais déjà paralysés, pour tous les tétraplégiques,
voilà,
c'est incroyable.
Bien sûr. bien sûr.
Comme une nouvelle interface pour compenser le handicap. Mais c'est super puissant.
Parce que la différence qu'il y a avec peut-être les autres expérimentations qu'on a eues depuis 15 ans, il n'y a jamais eu de production de masse dans tout ça. Et on peut imaginer que Elon Musk, lui, va pas s'arrêter.
Voilà, c'est le passage à l'échelle qui va.
Mais c'est quand même un spécialiste du passage à l'échelle. Alors, Tesla, ça a été un peu compliqué, mais il y est arrivé. SpaceX, il y est arrivé. Et on peut imaginer qu'il a déjà tout son projet d'industrialisation de ces puces-là, si évidemment il a toutes les autorisations. Mais finalement, s'il arrive à redonner de la vie et du plaisir à des personnes qui aujourd'hui sont totalement enfermées parce qu'ils ne peuvent plus interagir avec leur monde, c'est incroyable. Enfin, rien que pour ça.
Il y avait l'exemple aussi d'une femme qui était atteinte de la maladie de Charcot, justement dans d'autres expérimentations que j'ai pu regarder, qui est aussi un drame absolu, et où là, l'outil peut être une façon effectivement de compenser le handicap qui est créé. Donc voilà, que ce soit Neuralink, mais aussi demain, ce que l'AI pourra apporter dans le domaine de la santé, on aura fait un saut quantique dans 10 ans en termes de santé humaine. Après, on met aussi des outils dans les mains de personnes qui peuvent générer des dérives dangereuses.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre dans le domaine du médical. Le médical, c'est un truc normé. Contrairement, on parlera des réseaux sociaux tout à l'heure, etc.
Il a dû avoir l'autorisation de la FDA pour faire cette opération, bien sûr.
Je pense que c'est vraiment la première fois qu'on voit un protocole de test qui est aussi médiatisé. Tu parlais tout à l'heure de starification de ce patient zéro. On ne starifie pas un patient. Enfin, moi, je trouve ça.
Mais je suis pas tout à fait d'accord, sauf s'il le veut. Et j'ai pas l'impression, quand on voit les vidéos, vous avez regardé les vidéos de ce patient, il a l'air d'être cool, heureux de participer à ce truc-là. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que, franchement, je suis admiratif de tout ce que fait le CEA, etc. Mais regardons quand même la différence de communication et de marketing derrière tout ça. Le CEA, ça fait des années qu'ils font ces expérimentations. De temps en temps, on a des updates, et puis basta. Ce gars-là s'est fait opérer il y a un mois. On a déjà des vidéos qui sont quand même assez impressionnantes. Et on se dit que, voilà, Elon Musk prépare déjà le coup d'après. Alors, je suis pas pro Elon Musk, mais je me dis qu'il y a une autre manière de vendre en fait cette technologie. Il n'y a pas de tabou. C'est-à-dire que pourtant c'est un sujet hyper sensible, mais malgré tout, on le voit, c'est ce patient qui vraiment, avec sa volonté et le plaisir qu'il a à communiquer là-dessus, le fait sur les réseaux sociaux.
Mais c'est une communication qui est complètement maîtrisée de la part des équipes d'Elon Musk.
Bien sûr.
La transparence qu'on veut faire, enfin, on veut faire croire à la transparence, mais elle n'existe pas réellement. Enfin, un protocole médical, vous avez des comités scientifiques, vous avez une communauté scientifique qui vient assesser les progrès d'un médicament.
Là. Il y a toujours eu.
J'ai pas l'impression de voir des pairs s'exprimer énormément sur ces sujets-là. Là, c'est vraiment une communication qui est maîtrisée de A à Z. C'est les vidéos qui sont posté sur Neuralink, sur le Twitter de Neuralink. Donc c'est quelque chose qui est très maîtrisé, dont en fait la transparence n'est pas si importante.
Mais qu'est-ce que tu imagines derrière cette non-transparence ou cette transparence? Qu'est-ce que tu crois que Neuralink pourrait cacher derrière cette vidéo?
J'en sais rien ce qu'ils peuvent cacher derrière, mais on en a déjà discuté. Moi, je suis assez horrifié de voir ce qui peut se passer avec des puces comme Neuralink. Et je pense pas que la visée d'un Elon Musk soit une visée qui soit 100% médicale pour traiter uniquement des patients tétraplégiques. Moi, je vois derrière le transhumanisme qu'il a prêché pendant des années chez PayPal avec son acolyte. Et objectivement, j'aimerais bien voir où est-ce qu'on en sera dans 10 ans, et je serais horrifié de me dire que, en fait, on a vu ça, qu'on l'avait sous nos yeux, et qu'on s'est pas rendu compte de ce qui se passait réellement.
Ouais. Mais moi, je me mets aussi à la place de toutes les personnes handicapées qui nous écoutent.
C'est vrai.
Et qui rêvent de, peut-être, d'avoir ce type d'implant. Même s'il y a des risques, même si les statistiques sont pas, même si la communication d'Elon Musk n'est pas forcément bonne, mais
je me dis que
ces gens-là seraient ravis sans doute de pouvoir bénéficier de
ça. Ce que dit Hugo, c'est attention, il y a une expérimentation médicale, il y a des protocoles, il y a des règles, il y a des patients de placebo, des tests, enfin il y a tout un ensemble de choses qui fait qu'il y a un encadrement et une méthodologie qui est Est-ce qu'il y a une publication dans Nature autour de cela, ouais, avec une caution scientifique? Enfin, je veux dire, il ne faut pas qu'on oublie aussi cet environnement de caution scientifique qui est nécessaire à s'assurer qu'on n'est pas dans une entreprise purement de communication. Ce que, enfin, je fais pas de procès d'intention, mais je pense que c'est super. Mais je dis juste que ça mérite d'être aussi peut-être un peu plus encadré de façon méthodologique.
Ça serait intéressant d'ailleurs de savoir pourquoi on va dire les scientifiques, les chercheurs ne réagissent pas et ne communiquent pas en fait ces expérimentations de Neuralink. Est-ce que c'est parce que Elon Musk ne sait pas faire, ne sait pas communiquer auprès de ces gens-là, comme il ne savait pas communiquer à l'époque de Tesla envers les constructeurs d'automobiles historiques qui le détestaient? Est-ce qu'il y a aussi ce type de rupture en fait de communication qui...
On est juste dans un schéma de communication qui n'est pas habituel dans le monde médical.
Bien sûr.
Il a raison, Hugo.
Et puis il se sert de sa plateforme qu'il a rachetée pour présenter son innovation.
C'est un détail. Il le mettrait sur LinkedIn et sur Facebook, tout pareil. C'est ça qui fait aussi que c'est toujours un peu frappant. Donc j'ai l'impression qu'à chaque nouvelle étape, il y a une vidéo qui sort. Très bien. Mais je suis d'accord avec Christophe. De toute façon, ce truc va passer sous les fourches codines de comités scientifiques, etc., etc. Parce que au final, c'est quand même des objets de santé qui vont être produits. Ça, on ne va pas l'acheter chez Walmart, l'implant Neuralink.
Non.
Voilà. Donc, on ne sait pas encore combien il va coûter, d'ailleurs.
J'espère que ce n'est pas le chef de rayon de Walmart qui va te l'insérer dans le cerveau, parce que...
Oui, qu'il va sortir une
avoir une petite formation avant, quand même. Ouais. Je vous le mets tout de suite.
Attention, oui.
Ou vous attendez
avec les AirPods, oui.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Mais vous n'avez plus besoin d'AirPods, monsieur.
Mais non, c'est ça qui est beau. On vous les offre, monsieur, aujourd'hui, les AirPods. Non, mais sérieusement, on verra comment tout ça évolue. Et oui, c'est vrai que je me mets aussi beaucoup à la place de toutes ces personnes qui nous écoutent peut-être, qui sont immobilisées sur un...
Bien sûr.
Et qui, voilà, projettent d'énormes espoirs avec cette technologie.
Mmh. Je l'avais dit la dernière fois, mais il faut saluer le courage de ce patient zéro. Oui. Enfin, je pense une des personnes qui est l'une des plus courageuses aujourd'hui sur Terre. Il y a 7 singes sur les 23 qui ont été testés avec Neuralink qui ont survécu. Le courage qu'il faut pour se lancer dans ce protocole-là en tant qu'individu, en sachant qu'il y a ces risques-là derrière, c'est monstrueux. Et je pense que tu as raison de rappeler qu'il y a quand même un individu derrière. Il faut saluer son courage.
C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense qu'il a dû peser le pour et le contre et se dire, de toute façon, voilà, je sais que je serai tétraplégique tout au long de ma vie à 29 ans. Hein.
Ouais.
Il s'est dit, voilà... je tente le coup, le tout pour le tout, finalement. Et pour l'instant, espérons que ça continue. Il a l'air de se porter à merveille. En tout cas, c'est un sujet, vous avez vu, passionnant.
Il faut
que
ce soit encadré.
Voilà. Et évidemment, il faut que ce soit encadré. On verra comment tout ça évolue dans les semaines ou les mois qui viennent. On revient dans un instant. Cédric Ingrand, Christophe Honnête et Hugo Weber sont avec nous ce soir dans Tech & Co, la quotidienne, pour débriefer l'actu. Déjà 20h30, ça passe vite.
Mm-hmm.
L'info éco. Et on repart, bien sûr. On aura plein d'autres sujets à évoquer. La feuille de route du numérique de la France pour s'aligner avec les objectifs de l'Union européenne. On fêtera aussi les 50 ans de la carte à puce et plein d'autres choses. Vous restez là tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Avec Cédric Ingrand qui est avec nous ce soir, mais aussi Hugo Weber à ses côtés et Christophe Holnet. Voilà, on commente l'actualité encore pendant une grosse vingtaine de minutes. Petit détour par le DMA. Voilà, qui est un peu le marronnier de Tech & Co, la quotidienne. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire. Puisqu'il y a l'intéressant, c'est que chaque débriefeur a une personnalité particulière qui a un avis particulier sur ce sujet. Donc c'est toujours intéressant d'y passer quelques minutes. Ouais. Dernier rebondissement en date, messieurs, vous le savez, concernant le DMA, c'est les suspicions de l'Union européenne concernant l'application du DMA par les Apple, Google et autres. Et visiblement, l'Europe n'est pas contente.
Ah oui, il y a débat.
Voilà, les enquêtes de l'UE, parce qu'il y a des enquêtes qui ont été ouvertes, hein, ça a été annoncé hier, portent sur les sujets dont on se doutait un petit peu quand même qu'ils allaient tomber. Hein, Apple, qui devrait autoriser les développeurs à promouvoir des offres en dehors de leurs applications sans commission payante, ce qui n'est pas le cas, rappelons-le. Enfin bref, voilà, Google qui doit faire la même chose aussi. Apple qui doit inciter ses utilisateurs à choisir des applications par défaut différentes des siennes, comme Safari, on revient à la vieille histoire du navigateur que notre ami Christophe Hunlett, à l'époque chez Microsoft, a bien connu. Voilà, Meta qui doit proposer aussi à ses utilisateurs un moyen de ne pas être suivi, puisque, rappelons-le, l'alternative que propose Meta, c'est un abonnement payant. Et l'Union européenne dit non, les gars, excusez-moi, mais c'est pas possible. Il va falloir trouver autre chose. Amazon, qui a la fâcheuse tendance de promouvoir un peu sur sa boutique ses produits avant les autres. Bon, qu'est-ce que vous voulez ?
C'est humain.
C'est tentant, en tout cas. Je ne sais pas si c'est humain, mais c'est tentant.
Chez Carrefour, les produits de la marque, les produits de distributeurs sont souvent en haut de la gondole. Enfin, ça dépend, c'est compliqué.
Et voilà, c'est compliqué. Oui. Parce qu'il y a Coca-Cola qui ne se laisse pas faire par rapport au cola, Carrefour aussi. Enfin, bref. Donc, voilà. Et je trouve que la Commission européenne a plutôt vite réagi sur ce sujet. Faut dire que tout le monde était derrière, hein. Les Spotify qui ont dit attendez les gars, c'est pas possible. Microsoft, mais Epic avec évidemment Fortnite. Epic qui n'attend qu'une chose, c'est d'avoir son application maison pour balancer son jeu Fortnite. Donc bref, ça commence à craquer un petit peu dans tous les sens. Et le DMA a été mis en place il y a 3 semaines.
20 jours. Oui.
Ouais, 20 jours. Et ça craque dans tous les sens déjà, Christophe.
Oui, bah, d'abord ça bouge. Et je trouve que c'est plutôt positif, moi, parce que je trouve que le DMA est une bonne idée, mais qu'effectivement c'est compliqué à mettre en œuvre, parce que de toute façon la réalité aujourd'hui, c'est que, et c'est encore plus vrai avec l'IA générative, c'est qu'il y a des oligopoles c'est un oligopole qui se met en place avec des géants qui en fait maîtrisent des infrastructures sur lesquelles des écosystèmes vont se mettre.
Oui,
Amazon, Google, Microsoft, Apple, c'est ça. Et donc de toute façon, pour les acteurs européens, ce que fait faire le DMA, c'est de proposer des règles qui fait qu'on peut se développer dans ces écosystèmes-là avec des règles équitables qui font que on n'est pas pénalisé par effectivement des taux d'entrée prohibitifs ou des taux de sortie de la même façon, ou qu'on n'est pas qu'on ne risque pas d'avoir demain un acteur qui bundle de façon gratuite le service que vous offrez. Et donc pour tout ça, c'est pas facile à faire, mais ça fait bouger les choses. Il faut quand même bien voir que on parle aujourd'hui de magasins d'App Store en dehors de l'App Store Apple. C'était un tabou, jamais on n'aurait pu le penser. Et que même les Américains avec les DOJ commencent aussi à se dire, bah, finalement, oui, il faut qu'on mette un certain nombre de règles. Donc moi, je crois qu'ils ont réagi rapidement et qu'il faut réagir rapidement. Que c'est pas un jeu de gentleman et qu'il va falloir taper fort,
oui,
menacer fort, hausser le ton. Parce que sinon, les acteurs, moi, je les connais aussi, pour l'avoir vécu de l'intérieur, ils vont jouer au chat et à la souris, ils vont chercher jusqu'où ne pas aller trop loin. Et donc
jouer la montre
parce que c'est là aussi on est dans le ex ante, on est dans le ex post, on n'est pas dans le ex ante, c'est-à-dire que le mal pour beaucoup est déjà fait. Plus on traîne, plus on impose sa domination. Donc là je crois qu'ils ont bien fait. Ça reste très compliqué. Mais on voit quand même déjà quelques avancées arriver.
Cédric, après, on voit bien que la période de grâce a été de très très courte durée. Enfin, tu vois, et on voit bien aussi à quel point il y a plusieurs façons d'aborder ça. On voit bien qu'Apple, par exemple, lui est arrivé directement dans le rapport de force en disant moi je vais faire comme ça. Ah, c'est pas possible. Bon, alors je vais faire comme ça. Bon, bref, pour voir jusqu'où ils pouvaient aller trop loin. Ce qui est intéressant, et je suis d'accord avec Christophe, l'enjeu c'est pas de leur faire payer une position dominante qui d'ailleurs pour l'essentiel a été acquise à la loyale.
Bien sûr.
C'est de se demander, on est sur un marché où il y a toujours quelque chose qui a pu remplacer ce qui existait avant. Est-ce qu'on est encore dans cette situation-là ? Je veux dire, la montagne a monté pour remplacer un Google, un Amazon, un Meta, un Microsoft ou un Apple. Alors, ça peut aussi aller très vite, parce qu'on l'a vu, on est sur des marchés qui vont très vite. Donc, en fait, c'est un peu comme dans ce qui oppose Apple au DOJ aux États-Unis. Tout l'enjeu, c'est de définir quel est ton marché. Le DOJ aux États-Unis dit le marché d'Apple, c'est les smartphones haut de gamme. Et Apple dit non, le marché, c'est le marché mondial du smartphone, même ceux qui coûtent 20 $. Évidemment.
T'as même pas une coque pour 20 $ chez Apple.
Le seul risque dans lequel l'Europe peut s'enferrer, c'est exactement ce qui s'est passé il y a 25 ans aux États-Unis avec les actions antitrust contre Microsoft, c'est que la procédure a pris tellement de temps que quand elle est arrivée, le monde a changé autrement. Faut se souvenir, on reprochait à Microsoft d'avoir mis un navigateur internet dans Windows. On oublie vite quand même. Le jour où quand la procédure est arrivée à son terme, ça n'avait plus aucun sens. Enfin, c'était caduque, quoi.
Enfin, ça a permis malgré tout, grâce à une mise à jour que Microsoft avait faite assez rapidement d'ailleurs, hein, de pouvoir choisir au démarrage de la configuration de Windows son navigateur, ce qui était inédit quand même.
Hein.
Et moi, je m'en souviens.
Google de se développer sur Windows alors qu'initialement...
Vieux retard de la tech, on s'en souvient tous.
Ouais, sûr.
Et on avait à l'époque les navigateurs stars. Firefox, je crois que c'était le début de Chrome. Il y avait plein d'autres alternatives.
Il y a un exemple là où ça a marché, un exemple où ça n'a pas marché, c'est la commission avait attaqué Microsoft sur le Media Player.
Oui.
Et en fait... Quand la sédition a été prise, Media Player était partout. On est
on était à la grande époque des DRM sur les chansons. Oui. Enfin, c'était un truc.
Mais il faut qu'il fasse attention quand même, parce que les sanctions vont quand même très très loin. Mm. On dit, en cas de récidive, ça peut être 10% du chiffre d'affaires mondial, voire même 20%. Attention, il faudrait dire quand même à Apple, Microsoft, Meta, Amazon et les autres que Bruno Le Maire cherche de l'argent en ce moment.
Il en cherche beaucoup.
Ouais. Alors, moi, justement, j'ai regardé les résultats annuels d'Apple. Et en fait, c'est marrant parce que c'est la première fois qu'ils communiquent sur la part de l'App Store, enfin des revenus de l'App Store en Europe. La part des revenus de l'App Store en Europe, c'est 7%. Vous êtes Apple. Est-ce que vous vous posez la question de vous dire que vous allez prendre 20% d'amende sur votre CA mondial pour 7% de revenus sur une de vos activités qui est peut-être celle qui génère le moins de cash pour vous?
Oui, mais l'immense danger pour Apple, c'est pas que ça se passe ici.
Ça va être très difficile
de dire aux Américains, non, ça c'est impossible. Mais attendez, ça fonctionne en Europe. Ben voilà.
Parce que ça craque aussi aux US, tu le disais tout à l'heure.
Quand tu regardes les sanctions qui ont été récemment prononcées contre Apple, il y a eu début mars cette sanction de 1,86 milliard d'euros pour un abus de position dominante sur la distribution de musique via l'App Store. 1,86 milliard, c'est une somme qui est colossale, mais c'est 2% des revenus de l'App Store. Si on le rapporte aux tous les revenus annuels d'Apple, c'est 0,2%.
C'est trois fois le marché de la musique en France, quand même.
Juste qu'on reparle des mêmes chiffres. Mmh. Et après, ce qui est encore plus important de regarder, je trouve, c'est la réponse qu'a apporté Apple en disant « Ok, vous voulez mettre de nouvelles règles en place ?» Moi, je vais vous proposer une alternative à ces règles-là, et c'est ce qu'ils ont appelé la New Core Fees, de faire payer en fait 0,5 euros par téléchargement d'une application au-delà de 1 million de téléchargements
sur un App Store alternatif.
Sur un App Store alternatif, y compris sur des mises à jour. Mm. Quand on regarde toutes les applications qui sont en fait.
C'est intenable.
Tourner vers le consommateur, tout ce qui est B2C.
Ben, on aura moins de mises à jour, hein, ça c'est sûr.
Ça arrive des dizaines par an des mises à jour.
Ouais, c'est clair.
Voilà. Et en fait, pour moi, je le vois aussi comme une capacité, ou en tout cas comme une alternative.
Ça va pas tenir, on est d'accord. Enfin,
je pense pas que ça va tenir.
Ah bah là, mais en tout cas, c'est une terre brûlée. Là.
C'est un rapport de force qui s'oppose aujourd'hui. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut encore traiter ces gens-là comme des entreprises, ou est-ce qu'il faut les traiter comme des États à part entière? Vu le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui sur nos vies.
Ils sont pour certains plus riches que certains États.
Et ils sont supranationaux parce qu'ils peuvent définir un certain nombre de règles, ils ont des capacités énormes. Mais c'est vrai que je crois que ce qui caractérise Apple, c'est que c'est probablement l'acteur parmi les big tech, c'est celui qui est le plus touché par ça, parce que la philosophie d'Apple, c'est vous êtes dans l'environnement Apple. Le nombre de personnes qui disaient mais je suis Apple du sol au plafond, je fais que du Apple, et c'était vraiment l'ADN, y compris d'ailleurs un argument en utilisant l'argument de la sécurité, du respect de la vie privée, en disant voilà, vous êtes dans l'environnement Apple, vous êtes très bien, et bougez pas. Alors que les autres, que ce soit Google avec Android ou Microsoft, ils ont des stratégies beaucoup plus d'écosystème en faisant venir d'autres acteurs. Donc ça se voit un peu moins. Et donc effectivement, là, tout est focalisé sur Apple, qui a des enjeux énormes, parce qu'en plus c'est pas l'acteur qui est le plus en forme en ce moment. Il a absolument besoin de trouver une alternative aux iPhones. Alors peut-être que l'App Store représente une part faible, mais pour eux, tous les revenus de service, c'est quand même très important, donc ils sont très regardés. Et l'autre chose que je note en clin d'œil, c'est que Microsoft n'est pas concerné.
Non.
Alors là, c'est très fort. Ça veut dire qu'ils ont bien appris les leçons, et ils ont dû faire, alors en termes d'affaires publiques, ce qu'il fallait, parce que la réalité quand même, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait dire, mais pourquoi on ne propose pas une alternative à Teams qui a été rajoutée et qui a... annihiler tous les espoirs des gens qui avaient pu développer un système de vidéoconférence.
Et qui est intégré à Outlook.
Absolument. Absolument. Et donné à la mine gratuitement. Donc, on pourrait qualifier ça de pratique
très intéressante. C'était Zoom qui avait gueulé d'ailleurs. Il y avait une personne qui était montée au créneau en disant mais attendez, mais faites en sorte.
Ils sont moins B2C, etc. Donc, c'est peut-être pour ça. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question.
Oui, c'est clair. C'est clair. Juste pour terminer avec ce sujet, on s'éloigne un peu du DMA. On revient aux États-Unis. Focus sur Apple. Ça craque aussi pour Apple aux US, avec donc ce procès qui est intenté par le gouvernement au sujet de pas mal de thèmes importants, hein, l'Apple Watch, l'App Store, etc., etc. Est-ce que vous pensez que, tu le disais tout à l'heure, Apple a mangé son pain blanc, est-ce que cette période-là, elle est terminée, mais bien au-delà de l'Europe, et que finalement tout ce qui est en train de mettre en place la régulation européenne risque d'arriver d'un jour à l'autre aux États-Unis aussi?
Bah, c'était plus facile pour Apple à l'époque où on disait l'iPhone c'est X% des ventes, par exemple. Je te dis une bêtise selon les pays.
Ouais.
Aux États-Unis c'est terrible, hein, parce que c'est 50, 70, ouais. 80, etc.
Ben, je crois que c'est 75%.
Oui, c'est ça, voilà.
C'est monstrueux.
Mais au niveau mondial, c'était plus facile de dire, bon, ils ont 20% des ventes, ok, ils ont l'essentiel des profits, mais c'est difficile de les traiter de monopole. Là, sur le marché américain, non seulement il y a une position dominante qui est absolument indiscutable, mais il y a justement ce qui va derrière, c'est-à-dire tout ce qui a été mis en place pour garder cette position dominante. Les emails qui sortent dans le cadre de la procédure au DOJ sont formidables. C'est-à-dire que vous avez des vice-présidents d'Apple qui, dans des mails, disent non mais regardez, c'est quand même terrible. Imaginez si on mettait, la question se posait à un moment de mettre iMessage sur Android. Elle s'est posée, hein, c'est revenu plusieurs fois dans la conversation. Il y avait des pour, il y avait des contre. Il y en a un qui disait mais vous vous rendez compte, ça veut dire que avec un pauvre téléphone Android à $25, vous auriez accès à une plateforme cloud tout à fait aussi puissante qu'avec les iPhones qu'on vend beaucoup plus cher. Évidemment, tout ça n'est pas très désirable. Alors, on peut comprendre qu'un VP d'Apple s'exprime comme ça, mais ça pose quand même
des problèmes
en termes de concurrence.
Autre exemple intéressant, c'est l'Apple Watch. Après, je te donne la parole, Hugo. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire-là, parce que Apple a essayé de développer pendant des années, avec des téléphones Android, la possibilité de connecter une Apple Watch sur un univers Android, ce qui n'est pas possible, bien sûr. Une Apple Watch, ça ne marche que sur un produit iOS, et en l'occurrence un iPhone. Les ingénieurs avançaient sur ce sujet-là, sauf qu'au bout d'un moment, il y en a un qui a dit « Attendez les gars, mais vous êtes fous quoi ? On va pas vendre notre Apple Watch à des utilisateurs Android, on va casser notre marché quoi. Et puis ils ont arrêté le développement de cette passerelle qui était possible techniquement. Alors elle était compliquée, hein, visiblement, et ça coûtait beaucoup d'argent, mais c'était possible. Mais ils ont arrêté parce que ils avaient peur de perdre des utilisateurs d'iPhone qui auraient pu passer sur Android avec une Apple Watch.
Alors, après, je ne sais pas si d'un point de vue droit de la concurrence, on peut leur imposer de faire une Apple Watch pour Android. On pourrait imposer que ce qui ne marche pas bien, c'est que des montres connectées se connectent à l'iPhone. Moi, j'ai fait une petite analyse des montres connectées, j'en ai conclu que j'allais prendre l'Apple Watch que j'avais un iPhone, parce qu'il n'y a rien qui marche aussi bien intégré. Donc ça, je l'aurais plutôt vu dans l'autre sens, personnellement.
Oui, parce que l'Apple Watch avait accès dans l'iPhone à des fonctions auxquelles les autres montres connectées.
Exactement. Et là, on est vraiment au cœur du sujet.
Hein. C'est absolument le cœur du sujet. Tout comme le paiement sans contact sur iPhone, qui était jusque-là réservé, évidemment, aux fonctions intrinsèques du système iOS, ce qui, pour tous les gens du secteur bancaire, des paiements, toutes les apps, etc., là, pour le coup, on pourrait vraiment arguer qu'il y a un coût porté à l'innovation. Parce que toutes ces startups qui se sont développées pour simplifier les paiements directs entre utilisateurs, etc., je pense que c'est des arguments qu'ils peuvent porter.
Hugo, pour reprendre ton expression, François, tout à l'heure, est-ce que ça craque aux États-Unis aussi? Honnêtement, j'en suis pas sûr. Quand on regarde ce qui se passe à l'antitrust américain, c'est la FTC, la Federal Trade Commission. La personne qui a été nommée à la tête de cette administration par Joe Biden, c'est Lisa Khan. Lisa Khan, elle a fait sa thèse de doctorat ou de master, je ne sais plus ce qu'elle a fait à Harvard ou MIT, sur justement ces sujets de concurrence dans l'innovation et d'antitrust dans l'innovation.
Oui, avec comme bête noire Google, Apple, etc.
Amazon aussi.
Et son mandat, il était très clair. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose?
C'est compliqué, c'est long. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que c'est quand même des procédures qui sont longues.
Politiquement, enfin, aux États-Unis, il y a quand même un spoil system où les directeurs d'administration centrale changent à chaque gouvernement.
Le jeu politique. Hugo, tu as tout à fait raison, mais il y a aussi cette mauvaise communication qui commence à monter, finalement. C'est-à-dire que des choses qui étaient plus ou moins cachées et qu'on évoquait peu ou pas, en tout cas le grand public n'évoquait pas, on commence à avoir maintenant ce type d'informations qui arrivent dans les journaux américains, des choses comme ça. Et je pense que pour rappel, c'est pas un bon signal. Et deux, ça peut-être aller plus loin.
Et je reprends mon bleu de travail, mais on a aussi vu quelque chose d'assez intéressant, c'est la création de syndicats dans le secteur de la tech, de gens qui sont assez précarisés, notamment des sous-contractants d'Amazon, qui qui en fait commence à lancer des class action face à Amazon. Et je pense que justement le traitement de ces sujets antitrust, il devient politique à partir du moment où les électeurs vont se poser la question des dérives qui sont engendrées par ça, par ces entreprises.
Bon, en tout cas, sujet passionnant, tout ça. On reparlera de santé d'Apple le 18 avril prochain, car je recevrai sur le plateau de Tech & Co Sambul Desai. Je ne sais pas si vous connaissez cette dame. Nope. C'est la VP Monde Santé d'Apple, qui sera à cette occasion sur Paris et qui va venir sur le plateau Tech & Co et qui répondra à toutes mes questions. Évidemment, on parlera de la stratégie santé d'Apple, de cette compatibilité d'Apple Watch avec Android. On aura plein de questions à lui poser. Notez-le d'ores et déjà le 18 avril prochain, ici même sur ce plateau. On revient en France et là, rendons hommage quand même à l'une de nos innovations, on va dire, qui a transpiré au-delà de nos frontières et au-delà de notre continent. C'est pas le Minitel, hein, vous l'avez compris, parce que lui,
on
il s'est
essayé.
Arrêté.
On a essayé.
On a essayé, mais il n'est pas allé bien loin. Hein.
Nope.
Il s'est un peu noyé au large de la Bretagne. Mais en revanche, la carte à puce, elle a cartonné. Il faut savoir que cette carte à puce a 50 ans. Elle a été inventée, je le disais, donc par un Français. Elle a d'abord été déployée en France et puis elle a conquis petit à petit le monde entier par de nombreux usages et particulièrement les paiements. Petit reportage d'Alexandra Paget pour nous remettre un petit peu dans l'ambiance.
Inventée par Roland Moreno, un ingénieur, mise au défi par son banquier d'élaborer une carte à mémoire électronique, la carte bancaire ou CB est une histoire industrielle française de A à Z. Schlumberger, Bull, Oberture, Dassault se sont penchés sur son verso et Lydia, pionnière du virement dématérialisé par téléphone qui joue sur ses plates-bandes, est aussi une licorne tricolore, mais tous les systèmes cohabiteront, prédit Philippe Lolani, directeur général de carte bancaire.
L'histoire va continuer, l'instant de paiement, le digital va s'installer, mais par les paiements mobiles ou pour les paiements d'objets intelligents, la carte incluse dedans vivra très bien.
Aujourd'hui, 20% des paiements par carte en Europe sont opérés par CB et la carte bancaire a encore de beaux jours devant elle, notamment grâce à une nouvelle rupture technologique.
Il y a une rupture qui va arriver, qui est le quantique, qui va remettre en cause dans les années futures tout l'ensemble des éléments sécuritaires depuis 50 ans, qu'on appelle la cryptographie, les clés de sécurité, qui peuvent aussi donner des nouveaux services de paiement aux consommateurs.
En France, en 2023, on comptait plus de 84 millions de cartes bancaires pour environ 68 millions d'habitants, soit une carte 1,2 par personne.
Voilà, Roland Moreno qui nous a quitté il y a une douzaine d'années déjà, et qui a fait sa fortune sur cette carte à puce.
Ah mais c'est énorme.
Qui a été développée dans plein d'usages. Bien sûr, on évoquait la carte bancaire, mais rappelez-vous les cartes téléphoniques. Les plus vieux d'entre nous.
Les moins de 45 ans.
Cartes téléphoniques avec
ça a été le premier usage.
Sur la table, mais j'ai connu.
Voilà, c'est ça. Il y avait quoi aussi.
Et puis les premières puces sans contact, qui étaient vraiment la nouvelle vague d'innovation. Sa société s'appelait Innovatron, et je me souviens. Il y a 30 ans, 35 ans, il touchait, lui, 1 million de francs de royalties par mois à l'époque, dont il n'avait pas grand-chose à faire, parce que lui, il écoutait du jazz, il bricolait des trucs, il adorait son Macintosh.
Tu l'avais rencontré plusieurs fois.
Plusieurs fois, on
était. C'était un sacré personnage, quand même.
Il faut relire ses bouquins, La théorie du bordel ambiant, c'est merveilleux. Et c'est des choses qu'on retrouve dans d'autres personnalités, dans des Rafi Haladjian, par exemple.
Oui.
Et il avait des bureaux en plein centre de Paris, à côté de la place Saint-Michel, devant la place Saint-André-des-Arts. Et alors, pour la petite histoire, évidemment, il a fait une fortune extraordinaire avec les cartes SIM de nos téléphones mobiles. Lui-même n'avait pas de téléphone mobile. Enfin, il en avait un dans un tiroir qui lui servait pour les fois où il allait quelque part et où il était forcé de prendre un taxi. Mais ça arrivait, lui disait très rarement, parce que comme il le disait très bien, tout ce qui m'intéresse se trouve à moins de 300 mètres de la place Saint-André-des-Arts.
Et oui, voilà un lieu stratégique. Mm-hmm. Christophe.
Non, on peut se féliciter parce que c'est vraiment une innovation. Parce que parfois, on dit on a inventé l'Internet en France et puis on regarde à l'étranger, dans chaque pays.
Oui, chaque pays dit qu'il a inventé l'Internet.
Là, sur la carte à puce,
il y a consensus.
La smart card, c'est Roland Moreno qui ressort. Et donc, c'est quand même, on peut être fier de cette innovation et puis de l'impact que ça a sur le monde. Et surtout aussi, ça a permis de créer des très beaux acteurs français. C'était GM+, puis Gemalto, maintenant oui, Thales. Et puis Oberture, ce sont. Ils sont dans le top 5 des acteurs mondiaux. Donc, je pense que ça a aussi permis de garder une pertinence dans tous les domaines liés à la sécurité, à l'authentification, sur lesquels on a un vrai savoir-faire.
Ouais. Moreno qui avait lancé avant sa mort une espèce de concours en disant le premier qui arrive à pirater ma carte à puce, je lui donne 1 million de francs.
Ouais.
Et à ce jour, personne n'a réussi à pirater sa carte.
Non. Enfin, bref, ça dépend. Ouais, ouais. Il y a débat. Mais pas les cartes SIM, pas la télécarte.
Ouais,
la télécarte, tu sais, c'était en fait un tableau avec des fusibles à l'intérieur, s'il faut schématiser.
Oui, c'est ça.
Donc, tu avais 40 unités, on cramait un fusible à chaque unité. C'était un peu cru en termes de technologie, mais vachement efficace.
Ce qui est intéressant, c'est que cette technologie, donc, a traversé l'Atlantique, est allée un peu partout dans le monde, parce que, évidemment, les banques, au début, elles ne voulaient pas cette carte SIM, en tout cas cette carte à puce, dans les cartes bancaires, parce que ça coûtait plus cher que les pistes magnétiques, qui, elle, était là bien avant. Ouais. Mais c'était moins sécurisé, c'était plus facilement piratable. Et donc, la carte à puce, automatiquement, elle a été adoptée par les banques du monde entier.
Il y a encore plein de restaurants aux États-Unis qui prennent encore leur faire à passer.
Oh, c'est un peu fini.
Mais en revanche...
Non, mais à New York, il y en a plein encore. Mais tu as raison.
Pourquoi il y en a de plus en plus qui acceptent les cartes à puce? Parce que si toi, tu payes avec ta carte magnétique et que le commerçant n'est pas payé, il n'est plus assuré. Donc, maintenant, pour garantir son paiement, il est un peu obligé de passer par un terminal avec une carte à puce, parce que là, s'il y a un problème de triche ou quoi, bah, il sera quand même payé. Il y a une assurance. C'est quand même assez intéressant de voir que, mine de rien, voilà.
Et ça a mis beaucoup de temps aux États-Unis à s'implanter.
Ah oui, il y a une fin de 10 ou 20 ans avec une grande résistance des banques américaines qui disent non, mais toute cette technologie ne nous intéresse pas.
Mais c'est le sans-contact qu'il y a sur les téléphones, il y a encore un peu de Roland Moreno dedans, non?
Dans le NFC, c'est, je ne sais pas, il faut les demander à Innovatron. Mais on est sur des technologies qui, en tout cas, en découlent, oui.
Eh bien voilà, on termine ce débrief avec une note un petit peu positive. Cocorico,
c'est française, bien sûr.
Voilà, 50 ans pour la carte à puce. Et merci beaucoup à tous les trois d'avoir commenté aussi brillamment l'actualité comme à chaque fois, Cédric. Merci d'être là, vieil ami dédié, vous le savez, spécialisé à la tech. Et aujourd'hui, directeur général de Heavyweight Studio. Merci à Hugo Weber aussi.
Merci François.
À bientôt Hugo.
À bientôt.
Directeur des affaires publiques de Miracle. Et Christophe, on te retrouve très vite, bien sûr.
Bien sûr.
Christophe Follnet, senior advisor chez Seven2 et ancien président de Microsoft Asie du Sud et France. C'était bien après la carte à puce, quand même.
Il faut le dire.
Dans la frise chronologique, c'était bien par là, sur la droite. Vous restez avec nous, Tech & Co revient dans un instant. On a encore une petite demi-heure à passer ensemble avec du beau monde qui va arriver. Le porte-parole Europe de Nvidia sera sur ce plateau dans quelques instants. On va revenir sur toutes les annonces qui ont été faites il y a quelques jours par Nvidia, et notamment ce super processeur conçu, taillé pour l'IA. Et puis, une belle start-up Space qui sera sur le plateau, Latitude, mise en avant en ce moment, évidemment, avec le déplacement d'Emmanuel Macron à Kourou, en Guyane. Cette start-up a été choisie, justement, par le président Emmanuel Macron et par le gouvernement pour expérimenter, notamment, ces lanceurs très légers qui permettent d'envoyer des satellites tout petits et en cassant ce modèle économique du satellite envoyé qui coûte très cher. C'est très intéressant, tout ça. Dans quelques instants, juste après, Léa Benaïm qui me rejoint pour le Tech Flash, comme chaque soir. À tout de suite et merci d'être là.
Tech & Co, la quotidienne Tech Flash.
Allez, 21h01 sur BFM Business. Très belle soirée, merci d'être là. Et avant de parler de Nvidia, place au Tech Flash. En quelques minutes, ce qu'il faut retenir de l'actu tech de ce mardi soir, c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa.
Bonsoir François et bonsoir à tous. Plus de réseaux sociaux pour les moins de 14 ans, c'est ce que dit une nouvelle loi promulguée en Floride. Les enfants ne pourront plus ouvrir de compte Instagram ou TikTok et jusqu'à 16 ans, ils devront bénéficier d'un accord parental. La plupart des plateformes fixent à 13 ans l'âge minimum, mais cette règle reste tout de même facile à contourner. La loi entrera en vigueur en janvier. Plus besoin de se déplacer à la pharmacie, Amazon étend son service de livraison de médicaments sous ordonnance au jour même. Deux nouvelles villes, New York et Los Angeles, une offre déjà fonctionnelle à Austin, Miami ou encore Seattle, le fief d'Amazon. Une rapidité de service rendue possible grâce à l'IA générative qui permet de traiter les ordonnances en quelques minutes. La livraison, elle, s'effectue en vélo, camionnette ou encore avec des drones. Amazon vise une douzaine de villes d'ici la fin de l'année. Il sera bientôt possible de dessiner avec le Vision Pro. En tout cas, selon les dernières rumeurs, Apple travaillerait sur un crayon compatible avec le casque, comme celui qui existe aujourd'hui sur les iPad Pro. Un outil important pour les artistes ou encore les architectes, ce crayon leur ouvrirait une toile géante avec la sensibilité presque réelle qu'offre le casque aujourd'hui. D'après les informations de MacRumor, cet Apple Pencil serait lancé aux côtés de nouveaux modèles d'iPad en avril. Et on l'a appris il y a quelques heures, la WWDC d'Apple, la keynote la plus attendue de l'année par les développeurs et par nous, est prévue pour le 10 juin. Et on vous prépare bien sûr une soirée exceptionnelle dans Tech & Co à cette occasion.
Sortez les chips.
Et la consommation des box Internet en France explose. Elle représente un peu moins d'1% de la consommation électrique nationale. Et surprise, selon une étude de l'ARCEP, la consommation ne dépend pas de son utilisation. Que vous naviguez sur un site web ou sur plusieurs flux en 4K, la consommation reste pratiquement la même. Et si vous coupez la connexion la nuit pour faire des économies, vous gagnez seulement 1 à 2 euros sur un an. En réalité, la consommation de votre box dépend du modèle. Les vieilles box consomment plus que les récentes, mais le Wi-Fi 6, par exemple, consomme plus que le Wi-Fi 4.
1 ou 2 euros par an, oui, c'est énorme.
C'est pas grand-chose. Hein. N'essayez pas, François. Et pour finir votre rendez-vous sur BFM Business, un nouvel épisode d'En route pour demain, émission à retrouver en replay et en podcast sur la plateforme Tech & Co. Et Pauline Ducamp a testé pour vous le nouveau modèle d'Audi, le Q6 e-tron. Et on écoute tout de suite un extrait.
Ça fait longtemps qu'on en parle, mais on ne l'avait pas vu dans son intégralité, ce qu'on va faire dans cette émission d'En route pour demain. Et donc, pourquoi le développement a pris du temps? Parce qu'en fait, ce véhicule, il va introduire beaucoup de nouveautés technologiques. Tout d'abord, il y a la plateforme, une toute nouvelle plateforme dédiée aux véhicules électriques. Son nom, c'est PPE. Et ce nom de code, en fait, il est partagé avec le Porsche Macan, avec le cousin de Porsche dans le groupe Volkswagen. Ensuite, il y a aussi beaucoup de nouveautés à l'intérieur en termes de connectivité. Il y aura de l'intelligence artificielle et Essial Aqua va nous faire plein de démonstrations pour voir ce qui arrive sur ce véhicule et qui demain sera aussi dans d'autres modèles de la gamme. Et puis ce modèle, il a aussi une grosse importance commerciale pour Audi. En effet, ce Q6 e-tron, eh bien, il est face au best-seller européen, au best-seller mondial, hein, le Tesla Model Y. Mais allez, on va les découvrir plus en détail. On va enlever ce petit camouflage très léger pour commencer par un point design, parce que là aussi, il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent et qui viendront demain sur le reste de la gamme.
Voilà, En route pour demain, retrouvé sur la plateforme Tech & Co, sur l'appli, bien évidemment, BFM Business, l'appli RMC BFM Play, et sur YouTube aussi, il est 21h05. Parlons d'NVIDIA maintenant, l'un des géants des puces et de l'IA.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Avec Serge Palary qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Serge.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Bah écoutez, c'est un vrai plaisir. Vous êtes vice-président Alliance et OEM de la région IMEA chez NVIDIA.
Tout à fait.
Un peu le boss de NVIDIA Europe, Moyen-Orient, c'est ça?
Bah, je m'occupe de certaines activités sur l'Europe et sur le Moyen-Orient.
Exactement. Donc Alliance et OEM, ça représente quoi en fait? Quel est votre job?
En fait, les alliances, ça représente nos chers hyperscalers qu'on connaît tous. Ça représente aussi des gens comme Red Hat, DataIQ, belle société française.
Qui ont besoin de vos puissances de calcul pour faire tourner en fait tout leur système.
Tout à fait.
C'est ça.
Et puis les OEM, ça représente tous les OEM qu'on peut connaître, Dell, HPE.
Voilà, qui mettent du NVIDIA dans les
ordinateurs. Qui mettent du NVIDIA, nos solutions dans leurs produits.
C'est la fête hein, en ce moment chez NVIDIA.
C'est la fête, mais il faut toujours rester en alerte.
C'est la fête parce que, évidemment, vous avez des valorisations incroyables. Tout le monde parle de vous. Enfin, il y a même des médias mainstream qui évoquent NVIDIA, alors qu'il y a encore quelques mois, il n'y avait que dans Tech & Co et dans les blogs spécialisés qu'on évoquait NVIDIA. C'est dingue. Vous êtes passé d'une boîte qui était spécialisée dans le gaming il y a quoi? Il y a 20 ans, 30 ans?
Bah, NVIDIA a eu 30 ans l'année 30 ans, dernière, donc là, on va faire la 30e.
On se souvient des cartes graphiques qu'il y avait dans les ordinateurs à l'époque pour avoir des graphismes plus en plus beaux. Et puis après, il y a eu le marché d'automobile que votre patron visionnaire a adopté. Après, il y a eu aussi le minage de crypto-monnaies. Ça, c'était il y a quelques années.
Quelques années, oui.
Et puis maintenant, l'intelligence artificielle, parce que finalement, vos GPU, vos puces, ont une telle puissance de calcul qu'aujourd'hui, tout le monde se les arrache. Voilà. Pour les large language models, que ce soit OpenAI, que ce soit Mistral, notre pépite française.
Exactement.
Etc., etc. Tous, en fait, passent par la case NVIDIA.
Alors, tous passent par la case NVIDIA. Là, on revient de GTC.
C'est ça.
De la GPU Technology Conference qui a eu lieu à Santa Clara. Et on est très heureux parce que j'y ai été plusieurs fois. Je pense que c'est le meilleur GTC qui a eu lieu depuis un certain nombre d'années. Malheureusement, on pouvait pas se voir ces dernières années, donc c'était le premier où on avait en présentiel,
d'accord.
Avec donc 16 000 personnes de présentes.
Incroyable.
Et
certains disaient que c'était le Woodstock de l'IA.
Alors voilà, il y en a qui ont dit que c'était le Woodstock de l'IA. Je pense qu'il y a eu des très très belles annonces, on va y revenir. Ouais. Il y a eu plus de, je crois, 300 000 personnes connectées pour regarder le keynote de Jensen. Donc vraiment, vraiment, on est à un tournant, en fait. On est à un tournant de l'IA. Et quand on regarde l'IA, je dirais dans sa généralité, c'est pas un problème de processeur. C'est pas offrir un processeur pour faire de l'IA. C'est un problème, je dirais, pour contenter tout le monde, qui est un, ce qu'on appelle des logiciels, du processeur, du réseau. En fait, Nvidia aujourd'hui vend pas forcément des GPU, vend des data centers pour l'IA.
Et de la puissance de calcul, on
est
d'accord.
Et donc de la puissance de calcul.
Jensen Yang, j'imagine que vous connaissez, c'est votre patron. Mm-hmm. Quel personnage quand même incroyable et visionnaire qui surfe sur les tendances, sur les technologies. Je disais, l'automobile, le minage de crypto-monnaies, enfin il y a eu plein d'autres choses, le gaming dès le départ, vous êtes toujours dans le gaming.
Tout à fait.
Et aujourd'hui, donc, en fait, voilà, l'intelligence artificielle, cette puissance de calcul qu'il faut, c'est incroyable d'avoir toujours ce coup d'avance.
Alors, Jensen est un visionnaire. Comme vous l'avez dit, Jensen est un visionnaire. L'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose de nouveau chez Nvidia. Ça fait quelques années, quelques dizaines d'années qu'on travaille dessus, sous une forme ou sous une autre, dans les labs, etc., etc. Il est vrai qu'on a fait beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle grâce à nos puissances de calcul. Aujourd'hui, on en avait discuté, comme on se transforme complètement en une société aussi de logiciels, parce qu'avoir une puce qui sait faire X ou Y, c'est bien, mais si on n'a pas les logiciels adéquats pour aider les développeurs, pour aider les développeurs d'applications, ça va devenir problématique. Et donc, on fournit aussi cette solution globale qui est un data center, on va dire, qui comprend effectivement la puissance de calcul, le réseau, les logiciels. Et à GTC, on a donc annoncé cette nouvelle puce fantastique qui s'appelle Blackwell.
Blackwell qui explose tous les records en termes de puissance de calcul. Hein. C'est elle qui sera la nouvelle star de l'IA, justement, parce que est-ce qu'elle a été conçue pour ça, justement, pour permettre d'avoir encore plus de rapidité sur le calcul des large language models, des choses comme ça?
Alors, elle a été conçue comme la puce pour l'IA. Et je vais dire comme la puce pour l'IA générative.
Ce qui n'était pas forcément le cas de la précédente.
Alors, la précédente, on fait des très belles choses sur l'IA et
oui,
sur l'IA générative, mais là, on a, je dirais...
Mais là, elle a été, on va dire, optimisée pour l'IA.
Optimisée pour l'IA, avec des nouvelles générations de transformers, avec un certain nombre de technologies embarquées dans la puce. Et ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est de diminuer la consommation liée aux performances de cette puce. On la diminue de 40x. C'est cette consommation.
C'est le seul point noir en fait de tout ça, c'est que finalement cette course à la puissance de l'IA consomme énormément d'énergie. Et est-ce qu'un jour ça va pas nous revenir en pleine figure tout ça?
Alors il faut le regarder sous un angle, il faut le regarder sous l'angle du data center complet. C'est-à-dire je vais prendre un exemple. Si je compare un data center qui est équipé de la puce actuelle, la H100. Si vous mettez 8000 puces pour faire des large language models dans ce data center...
Parce qu'il en faut beaucoup.
Il en faut beaucoup. Vous allez en mettre que 2000 de Blackwell.
D'accord.
Donc, une puissance de calcul qui va être supérieure avec une consommation à l'échelle du data center qui va être bien moindre.
Alors, mais les 2000 nouvelles générations face aux 8000 consommeront moins pour tout autant de puissance.
Pour plus de puissance.
Pour plus de puissance. Sauf que, évidemment, on n'en voudra pas 2000, on en voudra 8000.
Des gens pourront faire avec 2000, pourront faire avec 3000. Je pense que ce qui est important...
Ouais, mais vous savez très bien comment ça se passe. Il y a une telle surenchère de puissance sur l'IA. Il y a une telle bataille aujourd'hui, une telle concurrence entre les OpenAI, les Google, les Amazon.
Qui sont nos partenaires, d'ailleurs.
Qui sont vos partenaires.
Qui sont nos partenaires. Et
comme Mistral, d'ailleurs. Puisque vous
comme
avez
Mistral est un partenaire aussi. Et l'IA ne se résume pas simplement à la puce, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que en fait, on a annoncé à GTC ce qu'on appelle des NIM, des NVIDIA Inference Model, et en fait la programmation au niveau de l'IA va complètement changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on programme en Python par exemple, et là avec ce qu'on appelle les NIM pour faire de l'inférence, on va pouvoir en fait programmer en associant des modules qui contiennent des modèles d'IA pré-entraînés, et les développeurs vont pouvoir s'amuser avec ces modules et faire leurs propres applications. Donc on va avoir un changement aussi de la façon de développer de l'IA ou du Generative AI, ou de l'IA générative, sur les plateformes.
Alors, ces puces s'appellent les B100 et les B200. C'est donc, on va dire, le top du top chez vous. Elles sont disponibles déjà, ces puces, ou elles ont été annoncées
seront disponibles dans l'année, là.
Ça veut dire que OpenAI a déjà fait ses commandes, j'imagine. Enfin, tous les géants de l'IA Vont vous solliciter pour avoir ces nouvelles puces.
Tout à fait. D'ailleurs, il y a eu des annonces qui ont été faites avec nos partenaires, Microsoft, AWS, OCI, Oracle, et bien entendu Google, pour l'adoption de ces puces qui est massive. C'est vrai, qui est massive, parce que les modèles, on va compter des trillions de paramètres dans les modèles futurs. Maintenant, c'est, je dirais, l'apprentissage de ces modèles est une chose. Le marché qu'il y a devant tous les gens qui font de l'IA, c'est comment utiliser tous ces modèles, comment utiliser toutes ces données. Et les entreprises doivent être conscientes que les données, c'est l'intelligence de leur entreprise. Quand on a une entreprise qui a été créée il y a 10 ans, il y a 20 ans, elle a une intelligence fabuleuse à portée de main. Il faut que cette intelligence soit utilisée.
Étant donné que vous êtes la star de l'IA aujourd'hui et de cette puissance de calcul, est-ce que c'est pas tentant pour vous de délaisser d'autres marchés? Par exemple, les cartes graphiques, les jeux vidéo?
Non.
Ou d'autres marchés qui vont être beaucoup moins mis en avant suite à cette euphorie, en fait, autour de l'IA?
La réponse est non. Pourquoi? Parce que
la B100 et la B200, typiquement, ces puces-là, ne seront aussi dans les cartes graphiques des jeux vidéo, pas? Ou enfin des gamers?
Ça, je peux pas répondre pour l'instant. Par contre, elles vont être dans une puce qui s'appelle Thor, qui est une micro-puce qui va être intégrée dans des devices autonomes, comme des robots ou des choses comme ça.
C'était l'une des annonces
qui a été faite, qui a été faite à GTC. L'objectif étant d'apprendre à ces robots dans des mondes virtuels, en fait, de les entraîner dans ces mondes virtuels pour quand ils arrivent dans le monde réel, ils sachent exactement ce qu'ils vont faire. Et ces puces Blackwell réduites vont être intégrées dans Thor, qui vont être intégrées dans des robots et dans d'autres devices qui vont être autonomes.
Et qu'est-ce qu'elles vont apporter dans ces robots? Elles vont leur apporter de l'intelligence, c'est ça?
Elles vont leur apporter la capacité d'utiliser les NIM, les softwares que nous développons, mais aussi de la puissance de calcul. Donc de pouvoir faire beaucoup plus de choses.
Oui, on voit des démonstrations, notamment de Figure.ai. Je ne sais pas si vous avez suivi cette start-up qui fabrique des robots humanoïdes sur lesquels on branche ChatGPT. On arrive à des résultats incroyables, des robots avec lesquels on peut avoir des conversations qui comprennent ce qu'on dit et qui enchaînent avec des mouvements qu'on leur a dit de faire. C'est fou. Et vous êtes au cœur de tout ça aussi.
On est au cœur de tout ça. Et Blackwell, comme vous l'avez dit, c'est vraiment la puce pour l'IA, mais sans tout le software associé, ça serait une marche en plus à gravir. Et il y a plusieurs façons. Il y a ce qu'on appelle le GB200, qui est en fait un processeur ARM avec deux Blackwell. Vous avez le B200 qui va pouvoir être mis dans n'importe quel serveur, enfin, etc. Donc on essaye effectivement d'adresser un certain nombre de marchés qu'on pense intéressants pour nos partenaires. Et ceux qui font partie de nos partenaires, ce sont bien entendu les OEM, mais aussi ce qu'on appelle les hyperscalers, et on les a cités tout à l'heure, qui intègrent tout ça, et qui intègrent aussi des parties de nos logiciels.
Mmh. Vous avez sorti, je crois, une IA aussi, enfin en tout cas un large language model qui permet de discuter aussi, un peu comme ChatGPT, c'est ça?
Alors on a un certain nombre de modèles. Oui. Qu'on met à disposition. C'est-à-dire, on a parlé de Mistral, qui ont des modèles fantastiques. Il y a d'autres modèles. Et puis, il y a des modèles Nvidia. Et ces modèles, tous ces modèles qui soient, on va dire, open source ou Nvidia, même si c'est de l'open source, ils sont disponibles chez nos partenaires. Donc, les gens peuvent amener leurs données,
d'accord,
sécuriser, utiliser ces modèles et construire leur propre LLM.
L'idée, c'est d'apporter le hardware, mais aussi du soft.
Exactement.
Et d'avoir une espèce de cohérence entre les deux.
Voilà. L'idée, c'est de donner les briques aux développeurs d'applications, aux utilisateurs, pour qu'ils passent du temps à fine-tuner leur modèle et à exactement faire ce qu'ils veulent faire.
Pour concurrencer OpenAI et tous les autres aussi, vous êtes sur cette partie soft?
Non, on va pas aller concurrencer OpenAI. OpenAI a utilisé le premier DGX que nous avons commercialisé pour commencer à développer, à développer ce qu'ils ont développé. Je crois qu'aujourd'hui, on est à une année charnière. On a connu ChatGPT en 2022. Tout le monde s'est réveillé au niveau des entreprises aussi, mais au niveau aussi des gouvernements. Aujourd'hui, il y a des lignes de budget dans les entreprises pour l'IA. Il y a des lignes de budget dans les gouvernements. 2023, ça a été l'année des LLM. On a tous regardé ça de près et c'est super intéressant. Et ça va continuer. Et puis l'année 2024, c'est l'année de la production. c'est l'année de la production de la mise en place dans les entreprises. Il faut qu'on arrive absolument à passer de proof of concept à une réalité, à une production qui va servir l'intérêt des entreprises et leur permettre de se développer.
Avec une croissance exponentielle et on va dire une puissance exponentielle grâce à cette nouvelle puce, la Blackwell que vous nous avez présentée tout à l'heure. Merci beaucoup Serge Palaric.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Vous êtes vice-président Alliance EOM de la région IME chez Nvidia. Merci.
Merci.
Et direction tout de suite comme chaque soir la rédaction de Tech & Co.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Pierre Berge-Sia nous a rejoint. Bonsoir Pierre.
Bonsoir François.
Journaliste à la rédaction de Tech & Co. Alors, fin janvier dernier, Neuralink, l'entreprise Elon Musk, hein, Pierre a implanté une puce dans le cerveau d'un Américain tétraplégique. Et aujourd'hui, l'homme se porte bien et est même capable de jouer à Mario Kart avec la pensée. Raconte-nous un petit peu cette histoire.
Alors, c'est une histoire, mais alors complètement dingue. Alors, ça s'est passé cette semaine. Cet Américain, Nolan Arbo, donc c'est cette personne handicapée, tétraplégique, donc qui ne peut pas utiliser ses mains, elle a posté une vidéo sur X, anciennement Twitter, dans laquelle elle joue à Mario Kart avec sa pensée, grâce à l'implant cérébral qui lui a été implanté. Alors, on se dit, mais c'est de la science-fiction, c'est un épisode
on
de Black Mirror.
On a du mal à y croire, hein, même. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est fou.
Eh ben non, c'est de la science bien réelle, c'est de la science même effective. Je vais donner une anecdote, hein. Nolan Arbo, il jouait avec, donc, pendant quelques minutes avec une personne de Neuralink, 10 robots, donc 12 personnes sur le circuit Mario Kart. Il a fini à la deuxième place, ce qui veut dire que rien que par la pensée, il est meilleur que moi à Mario Kart, ça fait mal.
C'est dingue. Et est-ce qu'il a essayé de faire d'autres choses avec cet implant, ce monsieur?
Alors oui, hein, l'implant, il n'est pas à son premier succès. Concrètement, il lui sert notamment à bouger le curseur de sa souris. Hein. Ça peut paraître basique, mais ça lui permet notamment de publier des vidéos sur ses réseaux sociaux, des vidéos de ses exploits. Ses exploits, ils incluent jouer à un jeu d'échecs en ligne, jouer à son jeu favori, hein, son jeu vidéo Civilization 6. Bon, quand on regarde le compte de Nolan Arbo, on se dit qu'il adore les jeux vidéo.
Alors tout ça, c'est top, mais on imagine que le but final de cet implant, Pierre, c'est pas simplement de jouer aux jeux vidéo. Hein.
Ah non, c'est très sérieux. D'ailleurs, hein, Neuralink, à terme, leur objectif, c'est, je cite, hein, c'est que la puce puisse pallier l'obésité, l'autisme, mais aussi la dépression, ou même carrément la schizophrénie. Alors bon, c'est bien beau tout ça, mais ça pose quand même des questions très concrètes, hein, de bioéthique. Des questions, bah oui, parce que, certes, aux États-Unis, Elon Musk a eu le feu vert hein, des autorités compétentes, mais on peut se poser la question, est-ce que ces résultats positifs vont vraiment convaincre outre-Atlantique, chez nous, en Europe? Bah, c'est pas si sûr. Hein. On se souvient, précédemment, Elon Musk avait essayé d'implanter certaines puces dans le cerveau de singes, 23 hein, pour être précis, seulement 7 avaient survécu à l'expérimentation.
Merci beaucoup Pierre, journaliste à la rédaction de Tech & Co. Et tout de suite, pour terminer cette émission ce mardi soir, on va parler de Space Tech avec mon invité.
Tech & Co, la quotidienne, la start-up.
Bonsoir Stanislas.
Bonsoir.
Stanislas Maximin sur le plateau de Tech & Co. Vous êtes le PDG de Latitude. Et avant d'entrer dans le détail de ce que vous faites, j'aimerais qu'on revienne à la visite d'Emmanuel Macron en Guyane depuis hier. Hein. Il a fait ce matin un crochet par le centre spatial guyanais à Kourou, où donc Emmanuel Macron a visité les installations d'Ariane 6, hein, le lanceur lourd qui doit décoller cet été. L'occasion surtout pour le chef de l'État de faire des annonces sur les mini-lanceurs qu'on va évoquer dans un instant. Voici le reportage de Jean-Baptiste Huette.
La France entre de plein pied dans le New Space. C'est le message que veut faire passer le chef de l'État. Il s'agit bien de modifier le logiciel spatial et de s'aligner sur le modèle américain. Des entreprises privées qui vendent des services aux États, comme SpaceX. Le centre spatial de Kourou va donc s'ouvrir aux mini-lanceurs, des petites fusées capables d'envoyer des charges entre 100 kg et 1 tonne 5, une offre complémentaire à Ariane 6. Quatre start-up ont remporté les premiers appels d'offres. Il s'agit de Latitude, Hyperspace, Sirius et Maya Space. Elles poseront donc leurs bagages à Kourou pour procéder entre 2026 et 2028 à des envois de satellites en orbite basse entre 400 et 600 km. L'État, via France 2030, a mis 400 millions d'euros sur la table, plus 50 millions pour adapter le pas de tir de Kourou. Attention toutefois, paiement à la livraison. Les quatre lauréats ont une obligation de résultat. C'est désormais la nouvelle doctrine du spatial français. La plus grande partie des fonds sera versée si les délais sont tenus et les volumes de charges utiles respectés.
Stanislas Maximin, donc, vous êtes le PDG de Latitude, sélectionné par Emmanuel Macron pour lancer des satellites pour l'État, ces satellites légers. Première réaction, j'imagine que c'est une satisfaction.
Très, très heureux, c'est le résultat de 4 ans de travail, pour non seulement faire comprendre que le modèle doit changer, que notre approche est la bonne, et que la France a besoin de micro-lanceurs, et de renouveler également sa façon de fabriquer des fusées, aujourd'hui petites, demain plus grandes.
Alors, avant de parler de ce deal avec l'État, que vous rentriez un petit peu dans les détails, expliquez-nous ce que vous faites. Chez Latitude.
Chez Latitude, on est transporteur de l'espace. On envoie des satellites qui vont de 10 à 200 kg n'importe où dans l'espace en orbite basse. Et on le fait à ultra haute cadence, 50 lancements par an et au prix le plus compétitif sur le marché au niveau international. On le fait avec nos fusées Zephyr. Ça fait 20 mètres de haut, 1,5 mètre de diamètre. Premier lancement prévu fin 2025 et deuxième lancement mi-2026 avec une charge utile du CNES.
Incroyable. Pourquoi cette frénésie des petits lanceurs avec des petits satellites, Stanislas ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi beaucoup d'acteurs se focusent là-dessus ?
Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 20 ans, les composants électroniques, ils ont été très réduits en masse, en taille, et leur puissance a augmenté, un peu comme votre téléphone. Ce qui se passe, c'est que plein d'entrepreneurs se sont dit, c'est top, on va pouvoir prendre les standards de satellites qui sont très très gros, et on va pouvoir les réduire considérablement, et avec ça, prendre des photos de la Terre, communiquer avec les objets connectés, faire de la détection de gaz à effet de serre, et en tirer plein d'applications diverses et variées, des applications qui vous servent aujourd'hui, à vous et moi, les Français. Et donc, forcément, comme il y a un marché, comme il y a un impact énorme sur notre planète, plein d'entreprises se sont lancées, plein d'agences spatiales se sont lancées également là-dedans.
Et puis surtout, ça fait baisser le coût du lancement.
Absolument. Ça fait considérablement baisser le coût du lancement, parce qu'on passe de satellites de plusieurs tonnes à des satellites de quelques dizaines de kilos. Et en plus de ça, avec Zephyr, vous économisez encore plus que chez nos concurrents.
Vous avez déjà... j'imagine, bien sûr, mis en place un business model. Lancer un satellite de 10 kilos, ça pourrait coûter combien ? On a une idée ?
Ça va dépendre. Nous, on a un business model un peu spécial. C'est-à-dire qu'on va pas... Nous, on envoie 200 kilos. Hein, Zephyr, c'est 200 kilos de capacité. Et généralement, nos clients, ils vont pas prendre une partie de la capacité, contrairement à d'autres lanceurs qui font du partage de vol. On optimise notre fusée pour que chaque client nous achète plusieurs fusées. Et au lieu d'envoyer et de disperser ses satellites à droite à gauche, d'accord, il nous en achète 5-10 lancements, et au lieu de lancer sa constellation en plusieurs années, on la lance en quelques semaines. Donc 10 kilos, aujourd'hui, nous on fait pas, on va pas juste vendre 10 kilos.
Alors quel est ce deal qu'a annoncé Emmanuel Macron et dont vous faites partie Latitude ? Racontez-nous.
Ce deal, c'est en cours de préparation depuis un petit moment maintenant, c'est la volonté de soutenir les acteurs des lancements avec non pas des subventions, mais avec un contrat qui rapporte à l'État un service. Et ça, c'est super important.
Enfin, les contrats publics.
Ça fait longtemps.
On évoque depuis des années, dans le secteur spatial, mais aussi dans d'autres secteurs.
Pour m'impliquer pas mal dans l'industrie, dans la deep tech, on ne fait que parler de ça. Et donc, je remercie grandement et je salue, parce que ça demande un sacré courage, ça demande de changer les règles à plein de niveaux également, que ça soit au CNES ou au niveau de l'État. Et c'est une super nouvelle. Ce contrat, c'est un contrat d'ancrage qui permet de nous aider et nous propulser dans le développement de notre fusée, en plus des financements massifs qu'on a déjà levés. Mais également, ça permet de montrer la confiance qu'a l'État français et particulièrement le CNES en nous, en notre projet et surtout envers les autres clients, à l'international notamment.
Concrètement, ça veut dire que l'État va être votre client, c'est ça ?
Absolument.
Mais quel type de satellite pourrait-il lancer avec votre technologie ?
À lui de choisir.
Mais il s'est engagé sur un nombre de satellites, sur une durée, comment ça se passe ?
Pour le moment, il nous achète une fusée.
Vous avez signé déjà le contrat ou pas ?
C'est en cours.
C'est en cours.
Non, on a reçu la notification et on est d'accord sur tout. Donc ça, c'est pas un sujet. Mais voilà, ça a été confirmé, bien évidemment. Quant à la partie satellite, c'est à l'État de choisir, particulièrement au CNES, l'Agence spatiale française, qui va déterminer si elle a des satellites qui pourraient être parfaits pour l'occasion, ou alors envoyer potentiellement des satellites d'université, j'imagine, d'instituts de recherche ou autres qu'elle a aidé à développer.
Alors, les autres startups sélectionnées, c'est Hyperspace, Sirius Space et Maya Space. Et donc, vous, Latitude, le calendrier, c'est quoi là ? Allez, faites-nous rêver. Quand est-ce qu'on pourra vous recevoir pour apprécier les premières images du lancement du premier satellite de Latitude ?
Les prochaines news. On a une année assez dense. On finalise complètement le développement sur Zephyr, notre fusée.
Là, ça vous oblige maintenant, en plus, ce contrat.
Obligé de performer. On arrête de juste vendre du rêve maintenant. On n'a plus le choix. Mais au contraire, c'est top parce que nous, on tient nos délais depuis qu'on les annonce. Donc, on a finalisé la revue finale, critique de design, pardon, en fin d'année. On fabrique le lanceur, on commence à l'assembler en fin d'année. On fait tous les essais moteurs de la version de vol en conditions réelles dans notre zone d'essai à Vatry. Et ensuite, on fait les essais de 10 systèmes. On va prendre le deuxième étage, on le teste au sol sans le décoller. On va prendre le premier étage, on y met le deuxième, on le teste au sol dans notre zone d'essai sans le faire décoller. Et une fois qu'on a validé tout ça, on va fin 2025 au centre spatial guyanais sur notre pas de tir faire le lancement inaugural qui est un lancement de test. On verra s'il fonctionne, on croise les doigts.
Bon, vous reviendrez nous raconter tout ça.
Bien sûr, oui.
On suivra de ça de près, l'avant, le pendant et le après de l'attitude. Merci beaucoup Stanislas, plein de bonnes choses pour la suite et bravo pour donc ce contrat avec l'État qui a été notifié par Emmanuel Macron à Kourou, c'était aujourd'hui. Vous êtes le PDG de l'attitude. Et tout ça pour terminer ce Tech & Co en ce mardi soir. Toujours un vrai bonheur que de passer cette soirée en votre compagnie. J'espère que vous avez passé vous aussi un bon moment. On sera là demain, mercredi, bien sûr, dès 20h à la radio, à la télé sur BFM Business. À demain.